Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux-Combaluzier sur Radio Imo.
J'aime bien cette petite musique, c'est entraînant comme ça. Bienvenue sur Radio Imo si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous faire suivre pendant deux jours le 15e congrès de l'UNIS, ici depuis le centre de congrès de Rennes. Pendant deux jours, les invités se succèdent sur notre plateau. Alors politiques, spécialistes, grands témoins également, tous viennent partager finalement quelque part leur expertise pour trouver des solutions, pour assurer l'avenir aussi de la filière. De nos invités m'ont rejoint sur ce plateau, Adrien Chaussinant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'innovation Procivis. Et puis à vos côtés, Muriel Trichasson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la commission Rénovation énergétique et RSE de l'UNIS. Bienvenue à tous les deux et encore une fois, merci de gentiment vous prêter au jeu des questions-réponses. Tous les deux d'ailleurs, vous avez participé tout à l'heure à une table ronde « Oser le changement, flexibilité des modèles économiques ». Voilà pour le thème de cette conférence. Comment Procivis intègre-t-elle justement l'innovation dans ses projets de développement durable pour l'habitat ?
Vous l'avez dit, déjà merci encore pour l'invitation.
Bienvenue.
Et nous, on a pris ce sujet du rebond et on s'est posé la question de quelle direction pour le rebond. Notre sujet du développement durable, c'est un peu notre ligne, notre trajectoire. Et donc, on s'est dit comment on allait réinventer nos métiers par rapport à ce sujet de la rénovation. On en a parlé sur différents sujets, mais principalement comment on réorganise nos équipes pour utiliser l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour décharger nos équipes des tâches qui sont laborieuses et qu'on ne veut plus faire, et se focaliser sur l'intérêt de notre client, de ceux à qui on gère le patrimoine, et en se demandant comment on améliore leur patrimoine, comment on se focalise, comment on se professionnalise sur le sujet de la rénovation.
Alors quand on parle d'innovation, il faut pouvoir réussir à la mettre en place. Quels sont finalement les obstacles, ou plutôt les défis, c'est plus optimiste comme mot, mais que vous rencontrez dans l'implémentation justement dans l'innovation, dans le secteur de l'immobilier ?
Alors, merci d'abord pour l'invitation. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord parce qu'on a un métier qui existe depuis fort longtemps, la loi de 65, etc., avec des habitudes qui se sont installées chez nos clients d'abord, et puis surtout chez nos collaborateurs. Donc l'accompagnement au changement, c'est un défi, une des plus grandes difficultés. Et pour ça, il y a deux, trois petites choses que nous avons réussi à mettre en place et on encourage les membres de l'UNIS à le mettre en place. Et notamment parce qu'on est face au village de l'innovation aujourd'hui. Faites rentrer l'innovation dans vos cabinets, organisez des réunions où les startups viennent se présenter. Non pas pour tout valider, puisque comme l'a dit Adrien, il faut savoir vers où aller le rebond, vers où va le rebond, mais il faut d'abord que les collaborateurs sachent toutes les innovations qui existent. Mmh. Et ensuite, de temps en temps, on a une bonne victoire avec des collaborateurs qui nous disent « Mais tu nous as présenté ça il y a quelques temps et en fait, on le voudrait et on va s'occuper de la mise en place, et etc. » Donc, il y a un accompagnement au changement qui est absolument pas impossible. Quand le dirigeant montre la voie, les collaborateurs ne sont pas aussi réfractaires que certains veulent bien le dire.
Vous vouliez compléter, Adrien ?
Moi, bien sûr, je travaille la plupart du temps sur le terrain avec des opérationnels et je vois à la fois des fois cette incompréhension des nouvelles technologies qui viennent prendre des petites parts de notre métier à droite, à gauche. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va devenir ? En fait, vous allez profiter de ces innovations pour vous poser la question, mais qu'est-ce que mon client attend de moi maintenant qu'il sait que je suis en train de régler son problème de chaudière parce que l'eau est froide, parce qu'il sait combien il va payer à la fin du mois, parce que maintenant il y a des outils qui permettent de prévoir exactement combien on va payer. Finalement, c'est quoi ma valeur ajoutée ? Et moi, j'aime bien qu'on se repose cette question de temps en temps. C'est quoi le métier de l'ADB aujourd'hui avec ces nouvelles technologies ?
Alors, quand on parle d'innovation, quand on parle de nouvelles technologies, c'est difficile de ne pas parler de l'intelligence artificielle, surtout en ce moment. Justement, quelle est la place de l'IA dans les projets que vous menez, par exemple, chez Procivis ?
Alors, nous, on a pris le pas d'abord de former nos collaborateurs à ce qu'était l'intelligence artificielle. C'est un peu ce qu'on a eu sur scène en début de plénière. On a eu une personne qui a suivi notre conférence en se disant « Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ?» Il a remis un peu des grands principes de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a fait pour nos collaborateurs. Et maintenant, on est dans une deuxième phase qui est proposer aux collaborateurs des outils, mais plutôt de manière volontaire. Et puis, tous les mois, tous les trois mois, on fait un petit point avec ces collaborateurs qui ont commencé à utiliser les outils. On leur demande, mais alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que finalement vous avez abandonné tout de suite alors que vous voyez ça comme une révolution de votre métier. Et on arrive maintenant sur quelques endroits précis où l'intelligence artificielle est vraiment apporteur de valeur ajoutée pour le client, pour le collaborateur, pour le confort de travail tout simplement. Vraiment, je vois des pistes d'avenir.
Ouais, et puis vous mesurez peut-être les premiers retours d'expérience aussi, tout simplement.
C'est sûr, hein, je ne sais pas.
Exactement. Ouais. Ce qu'on a fait, nous, à l'intérieur du cabinet, parce qu'au-delà de la présidence de la commission rénovation, on a aussi un cabinet à faire tourner, c'est d'abord d'installer Copilot, ChatGPT, etc. Et là, on s'est posé la question de qu'est-ce qui est utilisé. On a vu que finalement, ChatGPT était plus utilisé que Copilot. Voilà, ça donne des axes d'orientation, mais on change un peu notre regard. C'est-à-dire que d'abord, on leur donne l'outil. On regarde comment il se l'approprie, merci. Et ensuite, on fait des arbitrages, des choix, etc. Et je pense qu'on ne va pas avancer seul, nous, avec juste le regard du dirigeant, mais on va avancer avec ce que les collaborateurs utilisent en réel pour gagner du temps, pour mieux servir les clients, pour aller plus vite que les clients. Parce que je le disais tout à l'heure, mais un gestionnaire de copro ou de gestion locative reçoit en moyenne 100 mails par jour, 120 mails. C'est-à-dire qu'il en reçoit plus qu'il n'a de temps pour les traiter s'il veut être aussi au contact des clients et dans ses immeubles. Si on n'a pas les outils pour pré-rédiger les mails avec de l'IA, etc., de la réponse un peu automatisée, on va vite perdre notre expertise, dont on a appris tout à l'heure qu'elle allait être rebasculée sur d'autres domaines, forcément, puisque tout ce que va pouvoir faire l'IA va sortir de nos cabinets. Donc à nous d'avoir des vrais rapports humains avec les gens. Mais pour avoir des rapports humains avec les gens, il faut se débarrasser de l'administratif.
Ouais, il y a du boulot.
Et du boulot, exactement.
Quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui cherchent justement à innover tout en restant malgré tout, parce que c'est aussi un enjeu, responsable sur le plan sociétal et environnemental?
Alors, à l'intérieur de l'UNIS, on a les promoteurs rénovateurs, on a les syndics de copropriété et soyons moteurs de la rénovation énergétique. La ministre a même parlé de surélévation, un sujet qui m'est cher depuis longtemps, puisque on sait que 75% du bâti est déjà sorti de terre et que de toute façon, il faut de plus en plus de logements avec les lois ZAN, etc. Donc il y aura peut-être des assouplissements, mais la hauteur, elle n'est pas du tout encore exploitée. Exploitons-la. Le foncier est déjà à portée de la main des clients, des copropriétaires. Donc il y a ces enjeux-là. Le fait de faire accepter aussi de dépenser de l'argent pour rénover les immeubles, c'est tout un tas d'argumentaires où il faut travailler pour aller confronter les idées des copropriétaires et à ceux qui pensent que c'est impossible. J'ai envie de le dire, c'est pas vrai. Des petits cabinets à l'échelle des nationaux comme les nôtres, on y arrive. Donc c'est vraiment, quand on veut, on peut.
Ouais, vous avez la preuve par l'expérience. Quoi.
Exactement.
Ok. Comment finalement aussi l'expérience de la crise sanitaire qui a touché tout le monde en 2020 a-t-elle impacté la stratégie d'innovation? On peut aussi parler de votre cas chez Procivis.
Bien sûr. Alors. Moi, je vais juste dire mon cas personnel parce que j'étais pas chez Procivis en 2020, ouais. Au moment de la crise sanitaire. Moi, ça m'a juste donné envie de créer une plateforme qui met en lien des gens qui mettent beaucoup d'énergie, de temps à se rencontrer. Moi, je pensais à l'époque aux promoteurs qui ont toujours du mal à rencontrer ses propriétaires, qui ne savent pas trop s'ils veulent vendre, si leur terrain est finalement constructible. Et donc, du coup, on a fait cette plateforme de matching qui s'appelle Capture et qui permet de faire ce lien. Voilà. Mais je préfère aussi parler, on est à l'UNIS, donc on va parler agence immobilière. Ouais. Et Muriel sera bien meilleure que moi pour dire ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire au sein des agences.
Il y a forcément eu des répercussions, c'est clair. On le sait d'ailleurs.
C'est certain. On a eu à peu près une demi-journée pour fermer les cabinets, pour envoyer tout le monde soit au chômage technique, soit chez eux pour les protéger, pour protéger leur santé, acheter des ordinateurs portables et configurer à une vitesse grand V, tout en continuant à gérer les problèmes dans les immeubles, parce que bien entendu, ça ne s'est pas arrêté. Les fuites, les sinistres...
Ah bon
les... Non, on aurait bien aimé, mais non. Donc on a fait le job. Toute une corporation s'est rendue compte que c'était aussi facile de travailler à la maison que de travailler au bureau. Et le défi, après, ça a été d'encourager et de motiver tout le monde pour revenir au bureau. Donc, on parle de coworking, de co-living, etc. Je pense que le fait de travailler ensemble, de vivre ensemble, ça reste quand même une action prégnante. mais il faut que le bureau soit sympa, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt à revenir travailler au bureau pour faire société ensemble, ce qui est quand même un peu plus difficile en télétravail. Donc j'entends ci ou là des adeptes ou des anti-télétravail, je pense que c'est jamais blanc ou noir et qu'il faut faire un peu des deux.
Il y a encore des anti ou vraiment que des pros? Ça, c'est quand même bien...
Si, dans le réseau, il y a encore quelques personnes qui souhaitent que leurs collaborateurs soient là au bureau,
100%.
En physique, avec les équipes, pour pouvoir échanger sur les problématiques quasiment en temps réel, puisque quand on est à côté de son collègue, on peut quand même tout de suite travailler la problématique. Mais
évidemment.
Pour moi, il y a vraiment un changement générationnel qui va basculer, qui va dire que finalement, en fait, avec un Teams, moi, je peux contacter mon collègue de la même manière aussi instantanément, voire même je peux l'intégrer à ma conversation avec mon client si je vois que je suis un peu léger sur une réponse. Il y a une réorganisation totale du travail grâce aux outils numériques, et si on sait bien l'utiliser, et c'est là où je pense qu'il y a un énorme progrès à faire. Je parle juste même pour le réseau ProCivis, je pense que la formation sur les outils, sur leurs usages du quotidien, mais même les outils évoluent, donc il faut même reformer les personnes qui pensent savoir utiliser un logiciel 6 mois après, 1 an après, parce qu'il y a des nouvelles versions, il y a des nouvelles fonctionnalités.
Très vite. Et vous parliez tout à l'heure de l'exemple de ChatGPT. Bon, c'est vrai qu'il parle bien à tout le monde, mais tout le monde peut utiliser ChatGPT. Est-ce que tout le monde sait s'en servir, c'est-à-dire réaliser le bon prompt pour justement faire en sorte que ça réponde véritablement aux besoins de la profession? C'est peut-être une autre question. Il y a un vrai enjeu là, effectivement, sur la formation.
Alors, personne n'a besoin de formation pour utiliser ChatGPT, il suffit de lui demander de nous expliquer.
Ouais.
En fait, c'est comme si vous parliez, contrairement aux anciens outils informatiques où il fallait des formations, savoir crypter, décoder des choses un peu binaires, ChatGPT, il vous parle et il nous répond comme moi je suis en train de vous parler, c'est-à-dire vous lui demandez comment rédiger un prompt pour aborder tel ou tel sujet, il vous éduque.
Okay.
Donc,
il ne va pas répondre à côté, quoi.
Je vois que Muriel a bien retenu de la présentation qui nous a suivi, parce qu'il nous parlait de ça en disant arrêtez d'acheter des formations de ChatGPT à vos collaborateurs. Vous demandez à ChatGPT d'en faire une et il se débrouille.
Exactement.
D'accord.
Donc quand on nous explique que c'est compliqué, que c'est pas possible, que les gens vont pas pouvoir, en tout cas à deux là, on a trouvé tout un tas de leviers et on n'est pas les seuls, heureusement. Encore une fois, quand on a décidé qu'il fallait utiliser les outils modernes, on y arrive.
Comment est-ce qu'on travaille avec les syndics, justement, et les gestionnaires immobiliers pour les former, là, pour le coup, aux enjeux de la transition énergétique?
Les congrès sont un bon lieu pour mettre en avant les entreprises qui savent faire. Ici, on a des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des architectes, etc., des atouts dans notre manche. Après, il faut réussir à faire passer les projets devant les copropriétaires. Là aussi, c'est comme pour le reste, c'est une question de motivation, d'argument, de mettre en avant la valorisation de leur patrimoine, des nouveaux matériaux. Enfin, il faut le problème d'un syndic, et aussi son avantage, c'est qu'il doit être un peu un généraliste, connaître toutes les spécificités des métiers. Mais en tout cas, tout passe par la motivation et la volonté de prime abord.
Chez ProCivis, je dis souvent aux dirigeants qui me sollicitent pour justement former les équipes ou leur développer un peu leur esprit de curiosité, en leur disant que moi ce que j'aimerais c'est que nos sociétés elles soient de plus en plus apprenantes. Alors je ne sais pas exactement comment ils le ressentent, mais moi j'aimerais qu'on puisse consacrer un tout petit peu de temps, soit chaque jour, soit chaque semaine ou chaque mois, à apprendre à faire son métier, apprendre à mieux faire son métier, avoir le temps de se cultiver sur justement des nouveautés ou la manière de le faire. Donc ça passe évidemment par des clubs sur l'intelligence artificielle, sur la rénovation, des documents qu'on fournit au réseau pour qu'ils s'améliorent. Mais on peut fournir autant de documents qu'on veut, s'ils ne sont pas lus, il n'y a rien qui se passe.
Évidemment.
Donc je pense qu'il y a un vrai sujet dans le management de se poser la question combien de temps je laisse à mon collaborateur pour qu'il se forme à ce qui est son avenir. Voilà. Et je pense que ça va rassurer les gens que d'avoir le temps de comprendre les évolutions de son métier et même quand on parlait de la direction du rebond, si un manager dit on sait que dans 10 ans notre métier aura évolué vers la rénovation énergétique, on a 10 ans pour parcourir un chemin et faire en sorte que vous en soyez les experts d'ici là.
Et puis au-delà de ça, c'est tout le sujet de la montée en compétences, tout simplement. Il faut
en permanence apprendre, société apprenante,
s'acculturer,
surtout que les jeunes générations qui arrivent, y compris du côté de nos clients ou dans nos cabinets, font encore plus bouger les lignes que nous qui essayons de tirer la charrette.
Quelles sont les principales priorités de la Commission en matière de responsabilité sociétale des entreprises?
Alors, les motivations sont de bien nombreux ordres. En tout cas, il y a la formation, ouais. Parce que tout ça, cette pédagogie, ça prend du temps. Donc, organiser des formations au sein des cabinets pour travailler les argumentaires, pour travailler la technique, des conférences ou des réunions avec les banquiers pour monter tout ce qui est financement, avec les organismes qui allouent les subventions. Donc il y a tout un tas de rencontres a priori à étudier. Que vous dire de plus
sur la société sociétale? En tout cas, sur celle de Procivis, nous on a un grand enjeu qui est toujours l'accession à la propriété. Hein. C'est de là où est né le Crédit Immobilier de France et aujourd'hui on poursuit la mission chez Procivis. On se pose la question de cette accession à la propriété, même ce sujet de la propriété, est-ce qu'il ne peut pas changer au XXIe siècle et que finalement la nouvelle génération serait prête à acheter que partiellement ce logement? On la sort de ce cycle infini du loyer, mais on ne va pas vers une trajectoire 100% acquéreur. On trouve peut-être un entre-deux, puisque finalement on s'aperçoit aussi que les foncières pourraient être d'excellents gestionnaires de patrimoine avec les syndics. Voilà, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et en termes de décision peut-être beaucoup plus simple, et puis proposer un parcours un peu différent. Et ça, on travaille sur la question déjà depuis 2 ans, et je suis sûr qu'on va vous proposer des choses innovantes dans les prochains mois.
Des personnes que vous côtoyez ici sur le salon, est-ce que vous sentez qu'ils ont profondément envie d'oser le changement ?
Je pense que de plus en plus, les adhérents et les cabinets ont compris les enjeux, la difficulté, si jamais, enfin, la difficulté qui va s'installer si jamais ils ne font rien. Donc oui, je suis assez confiante.
Assez confiant.
Le marché est en train de toute façon de pousser ceux qui ne bougeraient pas à le faire. Donc pour moi, c'est un rééquilibrage qui est en train de se faire naturellement. Et la ministre disait l'immobilier est à la croisée des chemins. Et je pense que voilà, il faut prendre le bon chemin. L'UNIS est en train de le prendre avec ses comités rénovation, avec ces thématiques du rebond. Et faut juste pas rater le virage. Voilà.
Dernière question pour tous les deux, puis je vais vous remercier. Finalement, qu'est-ce que vous en attendez de ce 15e congrès tous les deux?
Alors déjà, comme d'habitude, un beau moment de convivialité, et jusque-là...
C'est plutôt bien parti.
La qualité des échanges, des conférences, des préparations qui ont été faites en amont, je suis impatiente d'écouter le reste des sujets. Et ce qui va surtout, à mon avis, en ressortir, et ce qu'on a entendu du discours de Madame la Ministre ce matin, c'est que le dialogue est renoué. Et on avait vraiment besoin et envie d'entendre ça. On a eu très peu de ministres qui sont venus nous voir au fur et à mesure des congrès. Une ministre qui vient et qui nous dit que clairement, elle tend l'oreille, que puisqu'on a les mains dedans, on est capable de faire des propositions. Je pense que ça va être une motivation assez incroyable.
Et puis un ministère de plein exercice, là, en plus.
Oui, ce qui ne gâche rien, effectivement.
Voilà. Adrien,
et pour ma part, c'est mon premier congrès, ouais. Donc j'ai tout à découvrir. J'ai l'impression qu'il y a des partenaires qui sont venus nombreux pour nous présenter ce qu'ils font. Donc je vais foncer au stand d'innovation pour aller piocher des bonnes idées. Et puis un gala, a priori, qui a l'air aussi super à découvrir. Donc j'ai juste hâte.
Eh ben, c'est parfait. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus sur cette émission et sur ce plateau. Bonne
merci
continuation. Et bon salon. Merci également à vous de votre fidélité et on continue donc à vous faire suivre ce 15e congrès de l'UNIS depuis le centre de congrès de Rennes. Merci et à très vite.
Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux Combaluzier sur Radio Immo.